Je nous invite à la prière avant de commencer. Seigneur Dieu, merci en effet de la jeunesse que tu as donnée à notre Église. Merci pour cette jeunesse qui aujourd'hui, Seigneur, se développe. Nous te prions, mon Dieu, qu'au-delà de toute considération d'âge, nous puissions être concentrés sur ta parole et que ce soit elle qui nous inspire. Seigneur, que ton esprit vraiment puisse nous convaincre au fur et à mesure de plus en plus, davantage, que tu es le seul Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce n'est pas la première fois que je me retrouve devant vous pour vous apporter un message. Donc, en janvier dernier, je l'avais déjà fait. Et finalement, ce que j'apporte aujourd'hui vient un petit peu dans la continuité, puisque nous allons nous intéresser, continuer à nous intéresser à l'apôtre Pierre, ou en tout cas à Pierre, qui était... au moment où j'étais intervenue disciple, puisque nous étudions les évangiles de Matthieu. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au livre des Actes. Et si on parlait un peu communication ? Il y a dans le monde professionnel un modèle, un processus que l'on appelle le process COM, qui a été développé par un certain psychologue, docteur en psychologie, Taibbi Keller. Il a développé ses études dans les années 70 en s'appuyant sur des observations liées aux relations interpersonnelles et liées aussi au mode de management des entreprises américaines. Alors, il se trouve que la NASA a été un de ses premiers clients, mais je suis aussi moi-même finalement une cliente de ce docteur puisque j'ai été formée au process COM. Donc la NASA a été un des premiers clients de ce docteur et a utilisé ce modèle pour recruter en fait des astronautes et faire en sorte que les équipes qui soient constituées soient les plus homogènes possibles. C'est-à-dire faire en sorte que quand on se met à faire des études sur la découverte des astres, la découverte du fonctionnement de la Terre, que les équipes qui soient en travail soient des équipes qui soient harmonieuses, qui puissent travailler vraiment avec une cohésion d'équipe. Et donc, tout cela peut s'appuyer notamment sur le process COM, puisqu'il permet d'identifier les personnalités, les modes de communication des uns et des autres. Donc, les travaux scientifiques de ce docteur Keller ont été couronnés par le prix scientifique Eric Berne en 1977. Donc, qu'est-ce que nous apprend ce process COM ? Il nous apprend que chaque type de personnalité a ses codes, son langage et ses références propres. Chaque type de personnalité émet ses propres signaux d'entrée, par exemple, en stress ou en mécommunication. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a un certain type de personnalité, quand il va être dans une situation de stress, va commencer à parler très vite et donc va presque perdre ses mots et donc s'affoler. C'est un mode de communication qui démontre, par exemple, qu'on est un petit peu en stress. Les études ont montré que la communication pouvait se décomposer en deux parties. D'abord des signaux non-verbaux, qui sont plutôt liés donc au ton, l'intonation, etc. Et les mots. Donc une communication, dans l'ensemble, c'est des signaux non-verbaux qui déterminent une intention et ensuite le contenu, donc les mots que l'on y ajoute. Ces deux éléments sont donc très utiles pour faire passer un message et en particulier si on veut vraiment impacter son auditoire. Donc lorsqu'on cherche... à impacter son auditoire, on va devoir mettre l'accent sur les signaux non-verbaux. Car on sait, en fait, par les études de ce fameux docteur en psychologie, que 93% de ce que l'être humain retient d'un message vient des signaux non-verbaux. Ça veut dire, en fait, que lorsque vous m'écoutez, là, vous êtes aussi attentif à l'attitude de mes mains, à mon visage, à mon sourire éventuel, au ton de ma voix, et tout autant... de l'intérieur des mots que j'utilise. C'est ça ce que ça veut dire. Donc les signaux non-verbaux dépendent de la voix, de l'attitude, des gestes, de l'expression du visage. Et seulement 7% de ce qu'on retient d'un message proviendrait des mots. Waouh. Bon, mais c'est ce que les études ont pu démontrer. Alors pour les parents, ça veut dire que lorsque vous réprimandez votre enfant... il est fort probable que plutôt que de retenir le fond de ce que vous dites, il soit très attentif à la manière dont vous le dites et que parfois, finalement, ce qui retient son attention, c'est la dureté du visage, c'est la précision des gestes et puis c'est le ton grave qu'on utilise quand on veut réprimander un enfant. Donc c'est vrai que ça peut expliquer pourquoi on doit répéter assez souvent aux enfants les mêmes choses pour leur faire comprendre. Alors, ça, c'est un premier niveau du process com. Le second niveau auquel on va s'intéresser davantage, c'est le fait que chaque communication, chaque message doit être adapté à la personne qui l'écoute pour que les mots, justement, qu'on utilise fassent du sens. Donc, le process com sert, en fait, à développer une certaine forme d'empathie, notre capacité à nous mettre à la place de l'autre pour comprendre comment lui pourrait comprendre le message que l'on a à développer. Puisqu'en réalité, le plus important dans une communication, dans un discours, c'est pas de se faire plaisir, de dire c'est super, j'ai bien parlé, etc. Mais c'est en fait d'être compris. Que la personne qui vous écoute soit en capacité vraiment de retenir, comprendre ce que vous avez voulu faire passer comme message, et idéalement, quand on pousse vraiment le modèle jusqu'au bout, sans qu'il y ait possibilité d'interprétation. C'est ce qu'on développe donc dans le monde professionnel. Et la question que je me suis posée, c'était, puisque la NASA utilise, ou en tout cas a réfléchi et a utilisé une méthode de communication pour faire ce qu'elle fait, vous connaissez les prodiges qu'a fait la NASA en termes de connaissance de notre Terre, de notre système solaire, etc. On peut se demander comment est-ce que la Bible elle-même nous exhorte donc à communiquer. Et quel message la Bible veut-elle que l'on communique ? Alors je réponds très vite à cette question. Un des messages importants, le plus important, c'est de proclamer la gloire de Dieu. Donc le titre de notre étude aujourd'hui, c'est « Actes pour l'évangélisation ». Alors acte parce que nous allons nous intéresser au livre des actes, et pour l'évangélisation puisque le livre des actes présente en fait l'activité des apôtres dans leur responsabilité de proclamer la parole de Dieu et donc de fonder les premières églises qui reconnaissent vraiment Jésus comme Seigneur et Sauveur et donc l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans Actes chapitre 2 et nous allons nous intéresser au verset 22 à 36. En fait, plus précisément, 22 à 41. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré, selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-loi. Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. » Voilà pourquoi mon cœur est en fête et ma langue est transportée d'allégresse. Ma chair même reposera dans l'espérance. Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de bonheur par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci. Avec assurance au sujet du patriarche David, il est mort. Il a été enseveli et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a vu d'avance la résurrection du Christ et il en a parlé. En disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et que sa chair n'a pas vu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a relevé. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, qui avait été promis, et il a répandu ce que vous voyez et entendez. Ce n'est pas David, en effet, qui est monté aux cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël le sache donc bien. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême en ce jour-là. Environ 3000 personnes furent ajoutées. » Alors je fais une petite parenthèse d'introduction, en quelque sorte, pour juste mettre les choses en place, à savoir quelle valeur Dieu donne à l'évangélisation, au cas où certains se poseraient la question. L'évangélisation est l'activité la plus ancienne du monde. C'est une activité qui est pratiquée par Dieu lui-même, puisque Dieu parlait déjà de lui-même lorsqu'il a créé les cieux, la terre. Lorsque Dieu a fait sa création, il a évangélisé, il a parlé de lui. Le psaume 19 nous le dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Par la suite, en faisant l'homme, Dieu a fait de nous des témoins de son existence, puisqu'il nous a fait façonner semblables à lui, dans Genèse 1. Et ensuite, à travers la chute, dans tout l'Ancien Testament, les grands patriarches, de la foi, de l'Ancien Testament, de Abraham jusqu'à David et les prophètes, témoignent de l'existence de Dieu qui se manifeste à travers ses œuvres, sa création et sa parole. Ils ont tous continué finalement à évangéliser et à transmettre la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'évangélisation est de nouveau affirmée comme l'activité centrale dont la responsabilité incombe à chaque homme qui croit, à chaque disciple. Et Dieu le Père a envoyé son Fils pour que, une bonne fois pour toutes, nous comprenions bien que son plan pour l'humanité, c'est le salut, et que donc, sa parole doit être proclamée. Jésus est venu affirmer, témoigner de l'existence de Dieu le Père, de sa grandeur, de son amour. Et donc, Jésus encourage ses disciples à faire de toutes les nations d'autres disciples. Et les disciples eux-mêmes à faire de toutes les nations, encore une fois, des disciples. Donc ça c'est dans Matthieu 28, où Jésus parle aux disciples et dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. » Donc la valeur de l'évangélisation, c'est de répondre à l'œuvre, de poursuivre pardon, l'œuvre de Dieu, de répondre à l'appel de Jésus, d'exploiter vraiment ce que Jésus a voulu nous laisser en nous donnant le Saint-Esprit, de l'exploiter, car le Saint-Esprit, c'est Dieu, pour que chaque homme puisse goûter à la vie éternelle. Alors, je ne vais pas faire de distinction précise entre le témoignage et l'évangélisation, même si on devait faire une étude un peu différente, on pourrait le faire. Alors, le témoignage, selon les experts en évangélisation et en témoignage, c'est la manière dont, en tant que chrétien, on va travailler, changer radicalement et donc, finalement, faire œuvrer Dieu en nous, dans la manière dont on va transformer nos pensées, nos paroles, notre manière de réfléchir, notre attitude. C'est une forme de témoignage, c'est-à-dire que c'est vraiment en nous et les autres vont le voir. L'évangélisation, c'est vers la proclamation. Je suis témoin, j'agis d'une certaine manière, et dans l'évangélisation, je vais me mettre à vraiment proclamer de façon distincte, claire, que Dieu existe. Alors, pour analyser finalement la manière dont Pierre nous instruit sur le discours, la communication pour l'évangélisation, nous allons regarder la structure du discours de Pierre. Alors, la difficulté, c'est qu'on n'a pas Pierre, l'apôtre Pierre devant nous, donc on ne peut pas analyser ses faits et gestes pour voir dans les signaux non-verbaux éventuellement ce qu'il aurait mis pour nous faire comprendre son intention. Mais par contre, on va s'intéresser justement à la structure, donc la manière dont il a mis son enchaînement pour comprendre finalement comment est-ce qu'il se met à la place de l'autre et comment est-ce qu'il structure son discours pour être sûr d'être compris et pour impacter son auditoire. La première chose très importante, c'est que Pierre cible son auditoire. Alors, on le saura ensuite quand on lit vraiment tout le livre des Actes, que Pierre était vraiment le pionnier de l'Église. C'est Jésus qui l'a institué et qui l'a fait de son ministère un ministère vraiment précis et ciblé auprès des Juifs. C'est-à-dire des personnes qui ont connu en fait l'Ancien Testament, qui connaissent les patriarches, qui sont vraiment des descendants finalement des patriarches et qui ont pour beaucoup vu Jésus. Et c'est là où Pierre, effectivement, va spécialiser finalement son ministère. Là où d'autres, comme l'apôtre Paul, vont aller vraiment au-delà des frontières et évangéliser d'autres nations, d'autres contrées, d'autres cultures. Donc Pierre cible son auditoire au verset 14, « Hommes de Judée et vous tous qui habitez Jérusalem », comprenons donc « hommes juifs ». L'apôtre Pierre cible les personnes qui ont entendu parler de Jésus, qui ont suivi son arrestation et qui ont, pour certains, plébiscité la mort, la croix de Jésus. Il le dit tout au long de son discours. Cet auditoire qui a certainement entendu parler donc de la résurrection et des apparitions de Jésus 3 jours après sa mort. Par la suite, dans l'intégralité de son discours, Pierre, des versets finalement 22 à 36, va placer Jésus au centre de son discours. Il va vraiment définir le sujet de sa communication. Et donc, il présentera Jésus, au fur et à mesure, dans sa mort, dans sa résurrection, et il conclura en parlant de Jésus comme le Jésus glorieux que Dieu a fait Seigneur et Christ. Donc, Jésus est le thème central du discours de Pierre. Donc, étape après étape, nous allons le voir, l'apôtre Pierre va confronter la vision que le peuple avait de Jésus, donc leur vision un peu à l'échelle humaine finalement, et il va la confronter à la réalité vraiment de l'œuvre accomplie par Dieu le Père. Les versets 22 à 24, Jésus était vu comme un Nazoréen par le peuple, c'est voilà, celui qui vient de là-bas, qui a une certaine origine, mais pas vraiment plus. Un terme qui était, de ce que j'ai lu dans les commentaires, peu valorisant à l'époque, et Pierre va apprendre justement s'appuyer sur cet élément-là pour donner toute la connotation positive, au contraire de celle que le peuple juif avait en tête, toute la connotation positive et la dimension que Dieu lui-même a instaurée en Jésus. Le verset 23, « Cet homme que vous appelez le Nazoréen, il a été accrédité par des miracles » Il a été cet homme que Dieu, a accrédité par des miracles et des prodiges et les signes qu'il a produits. Dieu a donné toute légitimité à cet homme, ce Nazoréen que vous appelez le Nazoréen, qui vient de là-bas. Dieu lui a donné toute sa confiance, toute son affection. Pierre remet un point ainsi les points sur les « i ». Et les hommes peuvent comprendre maintenant qu'il y avait dans l'œuvre de Jésus une signification plus grande que celle qu'ils pensaient. L'apôtre éclaire ainsi le regard de l'auditoire en mettant derrière chaque acte qu'il pensait humain une décision arrêtée par Dieu le Père. Et l'apôtre Pierre redéfinit finalement les événements à la lumière de la parole de Dieu. C'est comme si les Juifs avaient vu des choses, mais qu'ils n'en avaient pas compris le sens. Pierre redonne le sens. Ils pensaient qu'ils avaient eux-mêmes décidé l'arrestation de Jésus, qu'ils avaient eux-mêmes décidé de mettre à mort. Et ils comprennent maintenant qu'en fait, tous ces événements-là dépassaient leur propre volonté, et qu'en fait, tout ça dépendait vraiment d'une volonté qui est plus grande que la leur. Ils pensaient avoir, par des actes humains, fait mettre à mort Jésus. Et en fait, ils comprennent que c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de tout cela. Ceux qui voyaient dans la résurrection de Jésus une chose incompréhensible, qui ne rejoint aucun entendement, ils prenaient les autres pour des fous, c'était plus facile de mettre de côté en fait cet acte-là. Ils ont entendu que certains ont vu Jésus après sa mort, qu'ils l'ont vu ressuscité vraiment devant eux, mais ils ont relégué ça comme une chose illogique. Voilà, c'est trop fou pour y croire. Ils comprennent maintenant que Dieu le Père a révélé sa puissance en délivrant Jésus, son Fils, de la mort. Alors par la suite, dans les versets 25 à 32, l'apôtre s'appuie sur la parole de Dieu portée par le patriarche des Juifs, David, le roi David. De cette manière, l'apôtre prend un repère que son auditoire est très capable de comprendre, et même davantage. Un repère qui représente beaucoup pour les Juifs. Tous se disent descendants de David. Tous ont donné crédit à David comme étant vraiment un homme de Dieu, un homme de foi. Et l'apôtre Pierre s'appuie sur la foi de son auditoire pour leur présenter les choses telles que David lui-même les avait annoncées. Ainsi, le peuple juif comprend que le patriarche David, qui a pour eux donc une accréditation de Dieu, pour eux c'est très clair, avait déjà prophétisé la venue du Seigneur Jésus en tant que descendant de David et qu'il ne devait pas être retenu par la mort. Voilà un témoignage qui a un écho vraiment très retentissant dans les oreilles de l'auditoire, donc du peuple juif. Ils connaissent bien la parole de Dieu, ils connaissent bien l'Ancien Testament, et c'est ce qui fonde même leur enseignement et leur foi en Dieu. Le peuple juif pensait jusqu'alors avoir accompli sa propre justice, or c'est Dieu lui-même qui a accompli sa justice afin de sauver toute l'humanité. Enfin, au verset 33 à 36, l'apôtre remet Jésus à sa juste dimension. Donc je vous refais un petit peu le cheminement. Il reprend les événements, il tente d'expliquer aux Juifs qu'ils ont vraiment vu ce qu'ils ont vu. Jésus est vraiment mort, Jésus a été vraiment mis à la croix. Mais ce n'est pas le sens qu'ils pensaient. Le sens, c'est celui que Dieu a voulu mettre. L'apôtre Pierre reprend les fondements de la foi du peuple juif en utilisant donc les mots qui ont été donnés par David. Il n'y avait pas que David qui avait prophétisé sur la venue de Jésus, mais l'apôtre Pierre choisit d'utiliser cette explication-là, cette prophétisation-là, et il donne aux Juifs des éléments probants pour que leur foi soit vraiment exploitée. Versets 33 à 36, Jésus est enfin remis à sa juste dimension. Verset 33, Jésus est relevé par Dieu. Il a vaincu la mort. Verset 34, Jésus est élevé à la droite de Dieu le Père. Et verset 33, Jésus a reçu l'Esprit Saint. Et enfin, Jésus est désormais au-dessus de toutes les puissances de ce monde, puisque Dieu l'a mis assis à sa droite jusqu'à ce que ses ennemis soient son marchepied. David l'avait prophétisé. Ainsi donc, Pierre termine ce discours par le verset 36 et il déclare donc que la maison d'Israël le sache donc bien. Comprenez donc, sans interprétation possible, que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. À quoi est-ce qu'on aboutit à la fin de ce discours ? On aboutit à 3000 convertis. Parmi les plus incrédules, ceux qui ont contribué à mettre à mort Jésus. La grâce de Dieu a été accordée en ce jour et le cheminement que Pierre leur a proposé a porté ses fruits. Mais pas seulement, bien évidemment. L'Esprit a été accordé, l'Esprit Saint a été accordé à Pierre, l'Esprit Saint a été accordé à tout le peuple qui était présent et qui s'est converti, parce que c'est par l'Esprit que Dieu convainc de son existence. Alors avant de revenir à l'Esprit, que veut dire pour nous mettre en place une technique dans nos approches et dans notre évangélisation ? À mon sens, mettre en place une technique signifie que l'on réfléchit, que l'on construit, que l'on structure, que l'on prépare ce que nous avons à dire. Pierre nous enseigne bien à cet égard. Il a défini sa cible, il a structuré son discours en rapport direct avec les personnes qu'il avait en face de lui. Il s'est mis au niveau de ses interlocuteurs. Il a redéfini la réalité des faits qui se sont produits autour d'eux afin de donner le sens à la lumière de la parole de Dieu. Pierre s'est raccroché à ce que l'auditoire croit, et au fur et à mesure, il a éclairé le regard de son auditoire. Cette transformation que l'on peut parfois percevoir dans les personnes à qui on parle de Dieu, c'est merveilleux, c'est-à-dire que c'est comme si leur regard s'éclairait et ils voyaient de nouveau ce que la parole de Dieu nous dit. Un regard nouveau sur les événements, sur la vie, sur le monde, sur la création, sur notre propre existence. Dieu a décidé de faire grâce à ce moment-là, à tous ces Juifs. Alors, effectivement, l'Esprit Saint, c'est celui qui convainc. L'Esprit Saint, c'est celui que Dieu, que Jésus, a décidé de nous donner, de nous léguer, pour que sa parole puisse continuer à être proclamée. Et comment l'exploitons-nous ? Est-ce qu'il suffit d'attendre et de dire, bon, Jésus a laissé l'Esprit Saint, alors laissons-le agir. Jésus et Dieu est plus grand que nous, alors laissons-le faire. Pas besoin de nous pour convaincre que Dieu existe. Dieu n'a pas besoin de nous, il est suffisamment puissant, il l'a montré. Or, toute l'intelligence que Dieu a voulu mettre dans son œuvre, il l'a tournée vers nous. Il nous a donné la terre, les cieux. Il nous a fait semblables à lui. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné son esprit. Qu'en faisons-nous ? La différence qu'il y a entre Jésus et nous, c'est que Jésus lui-même était la parole de Dieu. Il avait tout en lui. Et pourtant, lui aussi a été dans la prière, dans la méditation de la parole de son Père. Alors, à plus forte raison, le travail que nous avons à faire en tant qu'hommes pécheurs, c'est de travailler, d'être empressé, d'être fervent dans notre capacité à exploiter pleinement tout ce que Dieu nous a laissé et dans notre capacité aussi à aller faire et continuer l'œuvre de Dieu. Cela nous demande des efforts, un travail, des recherches, de la méditation, de modifier notre comportement pour que nous soyons des bons témoins. Et grâce à la prière, à la méditation, grâce à la réflexion, à la structure, d'identifier les personnes que nous avons autour de nous, afin de déterminer et de faire en sorte auprès d'elles d'être de bons évangélistes, de bons disciples. Dans le premier chapitre des Actes, enfin dans le chapitre 2, les premiers versets, l'Esprit Saint se révèle et donne aux disciples le moyen de parler en langue. Dans le texte précis qui est dans les Actes chapitre 2, il s'agit vraiment de donner aux disciples la capacité de parler dans la langue de ceux qui sont en ce moment-là à Jérusalem. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a donné aux disciples la capacité de se faire comprendre dans la langue de ceux qui étaient présents. Alors, est-ce que pour nous aussi, ça veut dire que quand nous demandons au Saint-Esprit d'agir en nous, nous devons nous attendre à parler en chinois, en coréen, en arabe, etc. Bon, si c'est possible, je pense que Dieu le fera. Mais dans un premier temps, compte tenu de notre contexte de vie, nous sommes en France, compte tenu de la façon dont les personnes qui nous entourent fonctionnent, il me semble que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous rentrions en relation personnel avec les uns et les autres. Et Dieu nous a donné à chacun un langage que nous pouvons exploiter. Par exemple, un tel est médecin, donc il comprend le fonctionnement, le raisonnement des médecins. Un tel est professeur en musique, donc il comprend et peut analyser la manière dont les musiciens fonctionnent, ce qui fait écho dans leur esprit, ce qui fonde leur raisonnement. Certains sont informaticiens, donc ils savent comment on peut devenir très geek derrière un PC. Et de cette manière, on peut réfléchir et structurer un discours qui permet à celui que l'on cible de comprendre vraiment ce que nous avons à dire, d'exploiter dans les personnes que nous avons en face de nous ce qui fonde leur raisonnement et leurs convictions. Dieu a toujours voulu que nous prenions part à son plan. Il nous a créés semblables à lui. Et il nous donne son esprit afin que, comme les disciples, comme les apôtres, notre cheminement aille en grandissant. Pierre avait commencé par dire à Jésus, « Il est impossible que tu ailles mourir à la croix. » « C'est impensable, Seigneur !» Il avait dit ça. Son cheminement, par la grâce que Dieu lui a accordée, a été de devenir apôtre. Notre incrédulité d'un jour n'est pas pour toujours. Notre faiblesse d'aujourd'hui n'est pas censée durer pour toujours. L'apôtre Pierre est devenu apôtre. Et là, il prend la parole et il explique aux autres « Mais soyez pas incrédules, enfin, Jésus est mort à la croix et ressuscité. » Alors que lui-même, quelques jours avant, n'y croyait pas, ne le voulait pas. Il l'a compris, il le transmet, et Dieu lui fait la grâce de voir que 3000 personnes sont converties. Tout se résume en deux actes. Acte 1, changer radicalement par la prière, la méditation. Faites de votre incrédulité d'aujourd'hui, enfin travaillez sur votre incrédulité d'aujourd'hui, transformez-la. Changeons nos pensées, je m'inclus totalement dans ce cheminement. Changeons nos pensées, maîtrisons nos paroles, réfléchissons nos attitudes. Acte 2, ayons le souci de notre prochain. Une fois que nous avons fait évoluer notre être, une fois que Jésus nous a transformés, ne soyons pas juste joyeux en nous-mêmes, mais disons-le aux autres. Amenons à notre prochain, dans l'amour, à comprendre qui est vraiment Christ. Ce n'est pas une fable. J'ai entendu récemment une collègue me dire « Mais peut-être que les animaux sont plus intelligents que nous. Peut-être qu'en fait, Dieu n'a pas fait l'homme supérieur aux animaux. Comment comprendre ça ? Comment je pourrais ? Qu'est-ce qui me ferait croire autre chose que peut-être que les animaux vont nous bluffer un jour ?» Ma première réaction a été de dire « Mais quelle est cette réflexion sans fondement, sans intelligence ?» Mais quand je dis ça, qu'est-ce que ça peut changer chez elle ? Je me satisfais de dire « Bon, elle est à l'ouest, pardonnez-moi l'expression, elle est à côté de la plaque, mais qu'est-ce que ça change chez elle ? Rien. » Mon travail, notre travail, c'est d'entendre, chercher à comprendre, se demander mais qu'est-ce qui peut en elle faire qu'elle peut penser qu'il est plus facile de croire que les animaux pourraient être les êtres supérieurs plutôt que de croire que Dieu existe et que Dieu nous a fait hommes. Donc de réfléchir, de méditer. Et ensuite, mon travail, c'est de retourner vers elle et de chercher à lui transmettre avec amour la vérité selon la parole de Dieu, que son regard soit éclairé. Et mon tout, acte 1, acte 2, acte 1, changer radicalement, acte 2, ayons le souci de notre prochain, et le tout se résume dans le commandement du Seigneur. Matthieu 22, versets 37 à 40, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le plus grand commandement, le premier. Et un second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je nous invite tous, dans cette nouvelle année scolaire qui s'ouvre, à identifier les personnes qui ont besoin de la lumière de Dieu en acte pour l'évangélisation. Amen.